Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour Cinérama, c'est 30 minutes de cinéma et c'est hebdomadaire. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et aujourd'hui, on va faire un gros plan avec Jean-Baptiste Torret. On va parler de l'âge d'or du cinéma américain, comment ça s'est terminé.
Alors avec We Blew It, un documentaire donc sur le cinéma américain des années 70 et puis aussi, on va dire, un portrait de l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui, des années 60 un peu à aujourd'hui.
Et puis tu as vu deux autres films que tu as appréciés.
Notamment Thelma, un film, on va dire, fantastique, norvégien, et puis L'éducation d'El Rey, un film argentin.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de 12 jours de Raymond Depardon en salle depuis le 29 novembre. Et ce sera l'occasion, puisque Raymond Depardon pose sa caméra dans un hôpital psychiatrique, eh bien, de faire un blind test spécial film qui se déroule alors, soit entièrement, soit pour partie dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà, 5 extraits à découvrir dans cette émission. Et puis, eh bien, si on a le temps seulement, eh bien, on parlera de La Lune de Jupiter, film actuellement sur les écrans. Et c'est le cas de Marvin ou la belle éducation avec lequel on va commencer.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama, c'est un passe-temps surprenant.
Ma mère, elle ne soupçonnait pas du tout ce qui m'arrivait au collège.
Qu'est-ce que t'as sur la figure, toi ?
Y a eu de la baston ou quoi ?
Elle me posait pas de questions, elle était pas très attentive.
Qu'est-ce que t'as encore le squelette, c'est pas bon ?
J'ai pas très bien le fond.
Qu'est-ce que vous faites là, Bijou ?
J'ai raté le bus, madame.
Vous n'allez pas rester là à traîner comme ça.
Tu veux essayer, Marvin ?
Essayer quoi ?
D'improviser ?
30%, c'est la part qu'Anne Fontaine donne au roman autobiographique En finir avec Eddie Belgueul d'Edouard Louis dans son film Marvin ou la belle éducation. C'est pourquoi on parle de libre inspiration. Pourtant, dès les premières minutes, eh bien, ça ne loupe pas. Hein. Pour ceux qui ont lu En finir avec Eddie Belgueul, on a l'impression d'y voir Edouard Louis racontant sa vie d'exclu dans un petit village de la Somme, discriminé pour ne pas dire harcelé à l'école parce qu'il a des manières efféminées et meurtri par sa famille qui a honte de lui. Mais le personnage d'Anne Fontaine ne s'appelle pas Eddie, mais Marvin, interprété par Finnegan Oldfield, il n'habite plus la Somme, mais les Vosges. Mais changer ces éléments ne suffirait pas. Hein. Là où Anne Fontaine se détache vraiment du roman, c'est qu'elle imagine son personnage vivant son petit succès à Paris. Alors son succès, c'est d'avoir pu raconter son histoire de gay prolo, dénigré, dans un spectacle, et dans le même temps d'avoir pu quitter son monde de prolo pour flirter avec le milieu des artistes. D'avoir fait finalement de sa différence une force vitale. Le titre Marvin, ou la belle éducation, s'explique ainsi. Marvin naît et vit dans un milieu prolo, mais parvient à réinventer sa vie pour s'extraire des contingences de son milieu.
T'appelles ça élever un monde, toi ? Une vraie gonzesse, vous avez fait de lui, sérieux ?
Tu te prendrais la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin !
Un moins vivant cramera pas une goutte d'essence pour ces conneries de théâtre ! Pourquoi il nous fout la honte comme ça aussi, avec sa manière de peiner ?
Je me suis sauvé pour devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire soi-même.
Puisque vous êtes comme moi, bah... faites quelque chose de votre différence.
Donc oui, Anne Fontaine bâtit une fiction à partir d'une histoire qu'on connaît bien, mais surtout étire le récit et conçoit son film comme un flashback. L'enfance prolo de Marvin Bijou, hein, c'est ainsi qu'il s'appelle, va nous revenir en écho de sa vie d'artiste reconnue par le milieu. Un milieu où sa différence est aperçue, appréciée. À la fin de la bande-annonce, là, on a entendu Vincent McCain, prof de théâtre de conservatoire, qui va bien aider Marvin à prendre confiance, lui aussi, gay, venant du même milieu prolo, à dépasser la douleur et l'incompréhension. Il a un magnifique discours, hein, d'ailleurs, sur le regard. Il explique que, finalement, que si on est noir, qu'on est moqué dans la cour d'école, quand on rentre chez soi, finalement, on est soutenu par les siens. La différence s'efface. Mais si on est gay ou efféminé et qu'on est harcelé à l'école, quand on rentre chez soi, fortiori, hein, dans un milieu aux horizons culturels bouchés, eh bien, on reste seul. Une vision à laquelle Marvin ne peut qu'adhérer. Alors, l'école aurait pu suffire, mais c'est le théâtre qui aidera Marvin à dépasser son milieu. Si Anne Fontaine ne fait pas un traité de sociologie, l'univers familial de Marvin est gratiné, hein, avec un Grégory Gadebois impeccable, interprétant un père menteur, beuglant et buvant du matin au soir. Alors cette vision est assez fidèle à ce qu'on lisait dans le roman d'Edouard Louis, qui était donc autobiographique. Une mère qui fait ce qu'elle peut, un père qui se laisse aller. Assurément une famille bancale. Mais Anne Fontaine déplacera également alors la cellule familiale qui ne restera pas monolithique. dans le temps du film, hein, ces personnages auront évolué. Quoi qu'il en soit, la réalisatrice est plus tendre avec l'univers artistique et parisien dans lequel elle fait intervenir Isabelle Huppert, hein, qui joue son propre rôle. Alors une belle trouvaille, hein, quand on sait que Marvin met en scène sa vie, finalement, de retrouver une actrice qui joue là son propre rôle. Cela crédibilise d'autant plus le succès que Marvin remporte avec son spectacle. Pour être différent, encore faut-il être regardé. Et si on est regardé par les personnes qui ont de l'influence, eh bien, on imagine que ça va plus vite. Alors si quelques personnages apparaissent trop stéréotypés, transformant parfois le film en traité de sociologie, hein, le vieux beau en jaguar, des bobos insouciants, Anne Fontaine parvient néanmoins, en organisant plusieurs récits, l'enfant, le jeune homme et l'artiste, à offrir une vision sensible de l'arrachement à sa condition. Voilà, Marvin ou la belle éducation d'Anne Fontaine, ce qui me permet aussi de conseiller le film d'Edouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule. Place maintenant au polar argentin.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Para entrar a esta oficina queda un pasillo. De la caja con la plata.
Le jeune Reynaldo participe avec son frère aîné à un cambriolage chez un notaire qui tourne mal. Alors l'alarme se déclenche, son frangin se fait arrêter, mais il parvient à s'échapper avec une somme conséquente dérobée in extremis. Alors en s'enfuyant, il atterrit dans le jardin d'un vieux couple, Carlos et Mabel, et contre toute attente, le propriétaire ne le dénonce pas à la police, mais le séquestre. Enfin, du moins en apparence, car attaché par des menottes, il est néanmoins libéré le lendemain. Mais Carlos lui propose un marché, il répare la haie qu'il a abîmée et lui redonne sa liberté. Alors un prétexte au fond pour le retraité qui prend sous son aile le jeune délinquant. La relation ambiguë et toujours sur le fil du rasoir dépasse le cliché du rapport père-fils de substitution. Cet aspect est néanmoins bien présent dans l'éducation d'El Rey, d'autant que le fils de Carlos apparaît furtivement et on devine sans peine que les liens sont plutôt glaciaux. Mais cette étrange association n'est jamais alourdie par un discours psychologique formaté. Le réalisateur Santiago Esteves, dont c'est le premier film, préfère suggérer qu'expliquer, quitte à laisser des zones d'ombre et certains doutes quant à la motivation des deux personnages de rester unis. Alors, pour mettre du piquant dans cette chronique sociale plutôt réussie, le jeune cinéaste développe en parallèle une intrigue classique de thriller prenant le pouls d'un pays gangréné par la corruption. Les véritables commanditaires du délit, des flics haut placés et véreux, sont à la recherche du jeune homme qui commence à se sentir bien chez ce couple plus attachant que prévu. Alors l'Éducation del Rey est un film à la fois singulier et classique, ce qui n'est pas incompatible, singulier car le réalisateur annonce une forme, un ton, et va rapidement s'en détourner. Car l'ouverture filmée dans un style, on va dire, naturaliste agace un petit peu. Alors on a tous les tics formels, on va dire, du jeune cinéma d'auteur, caméra instable portée à l'épaule, les gros plans sur les visages et puis sur les nuques, l'absence de musique, la lumière naturelle sans artifice. Mais au lieu de s'enliser vers, on va dire, le portrait de jeune désœuvré, le réalisateur va au contraire plonger dans la fiction et raconter son histoire sans temps mort, ce qui n'exclut pas la justesse des situations et la finesse avec laquelle il décrit les rapports humains. Alors entre chronique sociale et polar codifié, trop diront certains moments, notamment les méchants qui ont plutôt des sales gueules issues de série B. L'Éducation d'El Rey est une excellente surprise, un petit thriller modeste et tendu qui trouve sa raison d'être au fur et à mesure que le film avance. L'aspect polar va prendre le dessus sur le récit d'apprentissage, mais la sécheresse du style, la perfection de la direction d'acteurs, des acteurs peu connus, voire certains amateurs je pense, et la description en arrière-plan d'un système affecté par ses élites et l'autorité en place font vraiment de ce premier long métrage une sorte de néo-film noir, puisant sa source à la fois dans des classiques américains des années 40-50, mais aussi dans la réalité politique de l'Argentine. Alors voilà, Santiago Esteves, je dirais que c'est un cinéaste à suivre, c'est quand même un premier film. Espérons juste qu'il ne cède pas aux sirènes d'Hollywood, comme beaucoup d'Argentins le font. Ils font un premier film en Argentine, et puis après, ils acceptent souvent des mauvais films américains.
Et qu'ils gâchent son talent.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Avant de jouer à notre blind test dans Cinérama, eh bien nous allons parler du nouveau documentaire de Raymond Depardon, 12 jours. Raymond Depardon qui rempile avec les documentaires qui ont fait sa réputation, soit Délit flagrant en 1994, qui nous plaçait au cœur de la procédure pour les personnes arrêtées en flagrant délit par la police, de leur arrivée au dépôt jusqu'à l'entretien avec l'avocat. Ou encore 10e chambre, instant d'audience en 2003, dans lequel on suit le déroulement des audiences de la 10e chambre correctionnelle de Paris. À chaque fois le même procédé, une caméra sur l'institution, soit les juges, une autre sur les prévenus et les avocats, tout cela en plan fixe. Alors rien de très audacieux, mais ce qui fait l'intérêt du dispositif, c'est que le réalisateur s'efface totalement devant ce qu'il filme. C'est le même principe pour 12 jours en salle depuis le 29 novembre. Cette fois-ci, Raymond Depardon, à qui il faut associer sa compagne Claudine Nougaret, ont posé leur caméra dans un hôpital qui organise deux fois par semaine des audiences publiques présidées tour à tour par quatre juges des libertés, deux hommes et deux femmes. objet de ces audiences, considérer si un patient doit rester à l'hôpital ou s'il peut sortir. Un dispositif récent, hein. Auparavant, le psychiatre était tout puissant et était le seul à décider qui pouvait entrer et sortir de son établissement. Mais depuis le 27 septembre 2013, les patients hospitalisés sans consentement dans les hôpitaux psychiatriques français doivent être présentés à un juge des libertés et de la détention avant 12 jours, puis tous les 6 mois si nécessaire. Or, cette décision est prise dans le cadre d'une audience entre juge et patient, le patient étant accompagné d'un avocat et pouvant ensuite se pourvoir en appel si la décision ne lui convient pas.
Donc moi, je suis la juge des libertés et de la détention et je suis chargée aujourd'hui de vérifier la procédure vous concernant.
Procédure, c'est passé au tribunal. Je n'ai jamais passé au tribunal.
Vous ne passez pas au tribunal, non, mais vous faites l'objet d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte.
Ici ?
Ça s'appelle comme ça.
Alors évidemment, suivre cette procédure n'a rien d'anodin, hein, c'est même exceptionnel, mieux vaut s'appeler de pardon qu'être un jeune étudiant en cinéma. Alors poser sa caméra dans un établissement psychiatrique n'est pas forcément impossible, il y a de nombreux documentaires sur le sujet. Mais on ne suit pas ici les patients et les soignants, mais les patients face au juge des libertés, ce qui est bien différent. On est alors confiné dans une seule salle de cet hôpital en banlieue de Lyon, une salle comme une autre.
Autour de moi, il y avait 12 personnes, 12.
Il faut de nombreuses personnes pour imposer la contention à quelqu'un.
12 personnes autour de moi pour m'attacher. En 2 minutes, j'avais plus de montre, plus rien. Ça, c'était très violent.
72 audiences ont été filmées par Raymond Depardon dans un dispositif serré, 3 caméras. Une sur le patient, une sur le magistrat et une troisième caméra pour un plan d'ensemble. Alors si ce n'était le montage, eh bien ce dispositif permet de ne pas imposer de point de vue et laisse libre le spectateur d'avoir le sien sur la situation dont il devient un témoin privilégié. La grammaire cinématographique est réduite à sa plus simple expression, le champ contre champ, marquant une séparation nette entre celui qui est interné et le juge des libertés qui doit statuer sur son internement. Alors parmi ces 72 cas d'internement sans consentement, Depardon en a pris une dizaine, ce qui est bien suffisant. Ce petit effectif permet déjà d'apercevoir une diversité d'attitudes vis-à-vis de la maladie, de l'internement et donc de la liberté. Il y a ceux dont on imagine qu'ils ont un lourd passé psychiatrique, ceux qui se retrouvent là sans comprendre pourquoi, il y a les burn-out professionnels, les schizophrènes, les psychopathes, ou encore ceux qui ont été internés non pas parce qu'ils pouvaient causer un tort à autrui, mais plutôt à eux-mêmes.
Je ne suis pas sûre que la loi me demande de décider si vous pouvez vous suicider ou pas, parce que ce n'est pas mon rôle, hein.
Évidemment, ces instants d'audience sont autant instructifs que sensibles. Ils nous renvoient à notre fragilité et font écho à la vie moderne, surtout quand on entend qu'une femme se pensant victime de harcèlement au travail est salariée chez Orange ou qu'un SDF se trouve aussi là, accusé, lui, de violence sur autrui. Or, chacun se dévoile avec ses mots, son vocabulaire, avec plus ou moins de facilité aussi, compte tenu des traitements de chacun. Ils ont enfin l'occasion de parler à quelqu'un d'autre qu'un soignant. Certains ne semblent pas mesurer d'ailleurs la raison de leur présence et la confusion règne parfois, mais c'est le jeu de ce documentaire sensible, précis et délicat.
Donc je vous dirais bien que dans mon parti politique, moi, je vais supprimer les psychiatres.
Je suis fou, j'ai la folie d'un être humain.
Alors les rencontres entre patients, juges et avocats sont entrecoupées de musique d'Alexandre Desplat qu'on vient d'entendre. Alors pourquoi pas, une musique délicate qui chevauche des séquences de couloirs vides, d'une cour grillagée où un homme fait les 100 pas ou encore de la brume matinale qui entoure l'hôpital. Un temps suspendu, une accalmie avant de se replonger dans les frontières de la folie ou de ce que la société a nommé comme tel. Alors en étant nous, spectateurs, médiateurs impuissants de cet improbable dialogue entre un patient qui se croit oui ou non bon à être interné et un juge qui doit décider du prolongement de l'internement. Alors qu'est-ce qu'être fou, qu'est-ce qu'être libre, où sont les limites? Ce questionnement peut nous envahir de temps à autre à la vision de ce 12 jours de Raymond Depardon dans les salles depuis le 29 novembre. Un documentaire qui nous donne l'occasion de jouer un blind test, alors cette fois-ci avec des fictions qui se déroulent soit entièrement, soit pour partie dans les hôpitaux psychiatriques. Premier extrait.
Ces images sont tout à fait réalistes. Autrefois, le genre de patients que nous prenions en charge ici était enchaîné et abandonné dans leur déjection. Ils étaient battus, comme si les fouetter jusqu'au sang pouvait les désaliéner. Nous leur enfoncions des vis dans le cerveau. Nous les obligeons à prendre des bains si glacés qu'ils s'évanouissaient ou se noyaient même.
Et de nos jours?
Nous les traitons, les soignons, tentons de les guérir. Et si nous échouons, nous leur apportons au moins un peu de réconfort dans leur vie, de calme.
Ce sont des délinquants violents que vous avez ici. Ils ont fait énormément de mal. Plusieurs ont commis des meurtres.
Pratiquement tous, c'est exact.
En ce qui me concerne, docteur, je m'en contrefous qu'ils se sentent au calme.
Alors, petit indice, parce que ça n'a pas été trouvé par Manu, en tout cas. Là, c'est la vision d'un hôpital psychiatrique, oui, mais ouvert sur une île.
Oui, c'est le Scorsese Shutter Island.
Oui, c'est ça. Qui donc établit un nouveau mode de thérapie. Là, on retrouve dans la thérapie un peu plus classique. Deuxième extrait.
Excusez-moi, Miss. Est-ce qu'il vous serait possible de baisser un peu le disque que vous passez pour que nous puissions parler entre nous ?
Cette musique est pour tout le pavillon, Monsieur McMurphy.
Oui, je sais, mais si vous la mettiez en sourdine, hein, si vous la mettiez un tout petit peu moins fort, ça nous éviterait de gueuler, hein ?
Ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que nous avons un grand nombre de vieillards dans cette section et qu'ils n'entendraient plus rien si je baissais le son. Cette musique, c'est toute leur vie. Vous salissez la glace avec vos doigts.
Oh, excusez-moi.
C'est pas grave. Monsieur McMurphy, hein? Votre médicament.
Relation tendue entre McMurphy et Miss Ratchet.
Donc c'est Voilà-tu d'un nid de coucou de Forman.
Et oui, 5 Oscars en 76, troisième extrait.
Quand j'ai eu fini de me recharger à l'usine, une ambulance m'a amené ici. Mais ce qui m'enquiquine le plus, c'est qu'on ne m'ait pas fourni ma notice. J'ai pas la moindre étiquette sur moi. Ce qui fait que je sais même pas à quoi je sers. Ni dans quel but on m'a fabriqué.
Hé, hey, t'as fait semblant de manger ce midi.
Alors, difficulté à trouver.
Sucker Punch ? Non.
Non, non. Ah. C'est un film donc coréen.
Yam Cyborg ?
Oui, c'est ça. Je suis un cyborg. On va le traduire en français. Donc, film de Park Chan-wook, sorti en 2006 avec une jeune fille qui se prend effectivement pour un cyborg.
Je plains le Dr. Fang. Sur le plan professionnel, il sait qu'il joue avec la dynamite. Mais il ne pouvait pas abandonner son vieil ami Swanee. Ils ont fait la guerre ensemble dans les services psychologiques. Aujourd'hui, le Dr. Fong est un grand crack. Et Swanee est mon patron, directeur commercial du Daily Globe.
Le rôle que tu apprends sera plus dur à jouer que tout ce que tu imagines, Johnny. Tu ne dois pas faiblir. Ce sera une lutte continuelle entre les fous et ton équilibre mental. Quant au médecin... Baisse ton masque un seul instant, ils sauront que tu triches. Ils ne doivent pas oublier une seule seconde que tu es un obsédé sexuel. Il est à toi, Swanee.
Il est prêt ?
Il ne peut pas l'être plus.
Un journaliste qui se fait passer pour fou pour remporter, pourquoi pas, le prix Pulitzer.
C'est Choc Corridor de Samuel Fuller.
Film de 63, dernier extrait, français.
C'est mon âme qui me fait souffrir, ça vous n'y pouvez rien.
Et pourquoi je n'y peux rien ?
Bien parce que vous êtes une femme.
Et alors ?
Excusez-moi, mais les femmes, c'est pas pareil que les hommes.
C'est-à-dire ?
Vous n'avez pas d'âme.
Parce que je suis une femme.
Ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas de ma faute. Vous avez déjà vu une femme prêtre ou une femme rabbin ? Bon, je ne dis pas, vous avez sûrement autre chose à la place, mais enfin, je me vois mal parler de mon âme avec vous.
C'est un peu insultant pour les femmes, non ?
Mais non, les hommes, ça vit sur une droite. Et les femmes, vous vivez dans des bulles, je ne sais pas, des petites bulles où vous devez passer de l'une à l'autre, où il doit y avoir des intersections. Ça doit être des petites bulles de temps, j'imagine. Et nous, les hommes, on vit sur une droite, une seule ligne, on vit pour mourir. C'est...
Et les femmes, elles vivent pour quoi ?
Ben, pour rien. Vous vivez, quoi. Nous, on vit pour mourir.
Extrait très étrange, tiré de...
Roi et Reine.
Film d'Arnaud Desplechin, film de 2006 avec Mathieu Amalric qu'on entend, et puis la psychiatre, est interprétée par Catherine Deneuve. Ainsi s'achève ce blind test spécial hôpital psychiatrique. Et on passe à un pays qui n'est pas fermé, lui, la Norvège, avec Joachim Trier.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Il est toujours plaisant de rentrer dans un film dont on ne sait pas très bien quelle direction il va emprunter. Le nouveau long-métrage de Joachim Trier, Thelma, après le décevant Back Home présenté à Cannes en 2016, possède cette singularité d'avancer doucement, de ne pas exposer son intrigue au bout de 15 minutes, mais de distiller les indices par petites touches, par des détails insolites. Alors certains ne vont pas hésiter à évoquer de la timidité, un manque d'audace dans la conduite du récit et critiquer une forme académique en surface. Mais cette sobriété sert une histoire mystérieuse qui n'aborde pas le cinéma de genre de façon frontale, mais détournée, ce que les puristes ne manqueront pas de dénoncer. Pourtant, Thelma est une vraie réussite, inquiétante et émouvante. Alors le prologue est par ailleurs assez étonnant, puisqu'un homme avec sa fille dans la neige, il est armé d'un fusil et vise un daim. Il hésite, puis tourne son fusil et braque sa fille sans que celle-ci ne s'en rende compte. Et il se rétracte. Alors pourquoi ? La suite le dira. Le genre d'ouverture qui titille un peu l'esprit, qui donne d'emblée l'envie d'en savoir plus, d'autant que la scène suivante, assez splendide, continue à provoquer une fascination, un rien hypnotique. Alors un plan aérien au-dessus d'un campus capte notre attention par un lent travelling avant, qui s'immisce doucement dans une foule en mouvement. Notre regard est tapé au bout d'un moment sur le personnage principal, Thelma, donc une étudiante introvertie, peu à l'aise en société. Une entrée en matière assez remarquable, figeant l'espace, instaurant un climat vraiment anxiogène. Alors, ayant reçu une éducation religieuse de la part de parents qui sont figés dans une attitude austère et morbide, elle tente néanmoins de s'affranchir d'un passé lourd et de s'ouvrir aux autres. Elle va rencontrer une jeune fille dont elle va tomber amoureuse, mais quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Elle fait des crises, alors non pas d'épilepsie, mais psychogène, délire perçu en des temps obscurs comme maléfique et attribué aux sorcières, ce qui donne un petit indice sur la suite. Mais à partir de là, Thelma, le film bascule dans un fantastique à la frontière du réel, laissant planer un doute quant à la personnalité complexe de l'héroïne. Alors possède-t-elle un pouvoir surnaturel ou est-elle atteinte d'une folie pathologique et surtout héréditaire, puisque sa grand-mère semble posséder le même mal. Alors Joachim Trier explore alors peut-être lourdement le passé traumatique de l'enfance, s'en mêle dans des explications psychanalytiques parfois un peu pesantes, mais réussit néanmoins à captiver, à distiller une atmosphère troublante grâce à une mise en scène distanciée, presque glaçante. Alors décors immaculés et modernes, photographies aux tonalités froides, des cadavres sophistiqués jouant avec beaucoup d'habileté avec les effets de miroir et les reflets, Trier s'impose comme un styliste convaincant, un peu à la manière d'un Thomas Alfredson, le réalisateur de Morse, dont on vous parlera de son nouveau film la semaine prochaine, Le Bonhomme de Neige. Alors, dans ce désir de s'emparer du fantastique le plus classique en surface et de le malmener au risque d'énerver les fans, Trier s'approche dans ses meilleurs moments d'un climat oppressant qui n'est pas sans évoquer Shining. Alors, le film peut aussi apparaître comme une variation de Carrie, les mêmes thèmes étant abordés de manière plus sous-jacente et moins baroque, mais notamment ce qui concerne le fanatisme religieux. Et dans ses moments les plus faibles, par contre, il redevient plus scolaire, voire un peu explicatif, dénouant les fils d'une intrigue en laissant moins de part d'ombre. Mais nous ne boudons pas notre plaisir, même si on aurait souhaité d'un fois un peu plus de trivialité, ça reste une très bonne surprise.
Et on termine cette émission avec un gros plan sur le cinéma américain.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Alors oui, Blue Hit est un petit événement pour les cinéphiles qui attendaient au tournant le passage derrière la caméra du journaliste Jean-Baptiste Torret. Alors Torret, c'est une des plumes les plus vives et acérées de la critique française, ex-collaborateur de nombreuses revues et journaux tels que Libération, Les Cahiers et surtout Charlie Hebdo. Il a d'ailleurs failli y passer lors de l'attentat puisqu'il était à une conférence ce jour-là en fait. Alors il a écrit de nombreux ouvrages, créé les revues Panique, Simulacre, réalisé des documentaires sur ses cinéastes fétiches, notamment Argento et Cimino. Passionné par le cinéma italien et le nouvel Hollywood, ce critique passe enfin au long métrage de cinéma avec We Blew It qui prolonge d'une certaine manière ses écrits et notamment son ouvrage sur le cinéma américain des années 70. Alors autant vous prévenir tout de suite, We Blew It n'est pas un documentaire au sens académique sur le nouvel Hollywood et l'histoire du cinéma américain des années 60-70. Torret laisse son cerveau de conférencier sur les bancs de la fac et devient simplement un vrai cinéaste immersif qui nous embarque vers un voyage personnel au cœur de l'Americana. Alors on assiste à un road movie cinéphilique et sociopolitique sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Il s'agit aussi d'une rêverie poétique cinématographiquement très maîtrisée. Torret possède déjà un sens de l'image, de la topographie, du cadrage qui impressionne pour un premier film gorgé de références et de citations. Alors, il a traversé plus de 4000 km pour un tournage étalé sur plusieurs mois pour revenir avec une centaine d'heures d'images, d'interviews qu'il fallait ensuite trier au montage. Alors son objectif, si on peut parler ainsi, est de comprendre pourquoi et comment, sans forcément donner de réponse claire, il y a eu une rupture à partir de 1975. Pourquoi la contestation sexuelle et culturelle de la génération hippie qui débuta au milieu des années 60 s'est-elle presque brusquement arrêtée? Alors hasard des calendriers, We Blew It, qui fut tourné en pleine campagne électorale 2016, s'interroge aussi sur cette question. Que s'est-il passé entre la période post-68, celle des idéaux et du renouveau, à l'Amérique contemporaine, à l'ascension de Donald Trump, qu'on pourrait considérer comme un retour en arrière fulgurant? We Blew It veut dire d'ailleurs littéralement « nous avons foiré ». Cette réplique est d'ailleurs issue d'un film générationnel très très célèbre.
Ah, on y est arrivé, c'est pas trop tôt. On y est arrivé. On est riche, vieux. On va se retirer en Floride maintenant.
Tu sais, Billy, on s'est paumé.
Quoi? Non, voyons, c'est fait, vieux, cette fois-ci. C'est, C'est vrai, on a palpé un beau paquet, on est libre. Tu y es? Hein?
On s'est paumé.
Alors, ils ne sont pas d'accord, hein?
Eh oui, et donc c'est Easy Rider de Dennis Hopper. Hein. Effectivement, c'est pas nous avons foiré, c'est on s'est paumé. Bon,
les deux se valent.
Les deux se valent, on dira. Voilà. Alors déjà, Lucide, hein, le film de Dennis Hopper, qui lui, elle, on va dire l'incarnation un peu d'une certaine idée contradictoire de l'Amérique, puisqu'il a été en fait une sorte d'emblème du hippie, et puis il est devenu au fil des années un républicain acharné en fait. Et il n'est pas le seul. Et il représente, je dirais, beaucoup de gens finalement aux États-Unis de cette manière. Alors la génération hippie à la fin des années 60 brûle ses derniers feux, hein. Les années 70 débutent, le désenchantement se poursuivra tout au long de la décennie, la guerre du Vietnam éclate et divise la population ainsi que le scandale du Watergate. Alors tout le film de Torrey est traversé par cette désillusion, hein, qui a quand même fait émerger toute une génération de cinéastes passionnants qu'on nommera le Nouvel Hollywood, hein, parmi lesquels on peut citer Martin Scorsese, De Palma, Spielberg, Coppola, Friedkin, cinéastes par ailleurs qui n'apparaissent pas et volontairement dans le film. C'est l'idée singulière aussi de ce documentaire que d'être allé dénicher des auteurs oubliés, on va dire, voire déchus, comme Peter Bogdanovich, Jeff Lieberman, Bob Rafelson, Tobe Hooper, Peter Yams ou encore Larry Cohen, ou alors plus underground comme Stephanie Rothman ou le cinéaste black Charles Burnett. Le film s'ouvre par l'intervention si brillante de Michael Mann, hein, qui analyse intelligemment le basculement du collectif vers l'individualisme à la fin des années 70. Alors, sans jugement ni certitude, Torrey donne aussi la parole à une foule de cinéastes, des journalistes, des intellectuels et artistes de tous horizons, sans distinction qualitative. Cette parole est aussi portée par de nombreux témoignages de représentants du peuple, notamment des farouches partisans de Trump, sans que Torrey les humilie ou ricane dans leur dos. C'est un peu la grande qualité du film, hein. Il ne filme jamais contre les gens, mais avec. Les interventions des anciens combattants du Vietnam sont par ailleurs très émouvantes, avec en arrière-plan, pour compenser l'absence d'extrait de film, une bande-son musicale, on peut dire un peu surchargée, mais érudite, très inspirée par contre lorsqu'il juxtapose la musique de Michael Small d'À cause d'assassinat sur les images iconiques de l'assassinat de Kennedy, que Torrey a toujours perçu comme la fin de l'innocence et un basculement dans la société américaine. Réflexion passionnante, hein, sur la contre-culture et sa disparition, mais aussi sur l'Amérique d'aujourd'hui. We Blew It est une fresque documentaire de 2h17, filmée en scope, à la fois nostalgique et moderne, intime et ouverte sur le monde, peuplée de témoignages contradictoires et riches. On n'en sait pas beaucoup plus à la fin, mais peu importe, le voyage en valait la chandelle. L'épilogue, un travelling arrière de près de 10 minutes, s'éloignant progressivement de la Dodge Challenger RT, moi je connais pas, mais c'est la voiture du cultissime Point Limite Zéro de Richard Sarafian, est magnifique et hypnotique, comme une façon de dire adieu à une époque. La voiture s'éloigne de l'écran, puis disparaît. Il est temps de tourner la page pour Torrey plongé depuis des années dans cette époque et de passer à autre chose. Alors on espère revoir vite un Torrey derrière la caméra pour une fiction, cette fois-ci, enfin un vrai film de genre pour cet admirateur donc de Palma et d'Argento.
Merci Manu pour ce gros plan avec un documentaire qui sera accompagné par son réalisateur dans les salles, dans plusieurs salles françaises évidemment, parce que c'est un peu l'objectif de ces documentaires.
Il fait une sorte de tour en France dans beaucoup de cinéma réessais en fait.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
On va prendre juste quelques minutes pour parler de La Lune de Jupiter de Cornel Mundruxo, un habitué de Cannes, avec La Lune de Jupiter en étant plein drame social mais aussi en plein fantastique. Le film commence abruptement avec une fusillade d'hommes et de femmes qui cherchent à traverser une frontière durant la nuit. Alors qu'il n'est une menace pour personne, Ariane se fait tirer dessus, on croirait mort, mais plutôt que de mourir, eh bien voilà que cet homme vole. Alors pas à la manière du Superman, mais sous une forme de douce lévitation, le voilà sauvé, mais dans un camp. Alors heureusement pour lui, ce drôle de pouvoir est remarqué par un médecin. Comme il a l'habitude de faire sortir des migrants du camp contre de l'argent, eh bien il va pas se gêner avec ce Syrien qui l'évite. Et au passage, le médecin va mettre au point un grand projet, hein, monnayer les dons surnaturels. Mais il n'y aura pas de repos pour cette entreprise de gros sous et de miracles, car le flic qui a tiré sur le jeune migrant n'aura qu'un but, le trouver pour en finir une bonne fois pour toutes. On peut en parler très rapidement, Manu, ce film, alors ça commence par une scène alors absolument virtuose, beaucoup de plans séquences, une forme assez brillante, mais finalement le film s'étiole un peu.
Bah, c'est un peu une parabole christique un peu lourdingue quand même, hein. Enfin, bon, où il faut regarder un peu en l'air pour s'élever un peu et sortir du réalisme dans lequel la société a sombré. Enfin, je trouve ça un peu décevant.
Moi, c'est vraiment la dernière partie du film. Autant la première partie avec ses effets spéciaux bien contrôlés, son rythme plutôt soutenu, ça c'est plutôt intéressant. Mais après, la dernière partie qui est juste une course-poursuite devient finalement assez ennuyeuse. On peut finalement préférer son film précédent, White Dog.
Qui était excellent, hein, avec une sorte de révolte de chiens. Une sorte de ferme des animaux contemporaine. Enfin bon.
À la manière de Spartacus, hein, il se rebellait.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui ?
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Vous reprendrez bien une dose de 30 minutes de cinéma la semaine prochaine avec Cinérama qui reviendra, notamment avec un film, Manu, au moins un film.
Le Bonhomme de Neige.
Et puis il y aura aussi un blind test.